De nouvelles cette semaine dans le monde de l'actualité, de la politique internationale. Et vous savez ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est lors d'un petit cours privé avec le prof Arsenault. Éric Arsenault est prof d'actualité internationale au cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, Paul-Raphaël. Bonjour, Pascal.
D'abord, parlons un peu de ces deux débats à l'investiture démocrate aux États-Unis. Il y a 24 candidats, seulement 20, une façon de parler, mais il y en a 20 donc, qui ont débattu au cours de deux débats. Êtes-vous capable d'emblée de nous dire, prof Arsenault, ceux qui ont sorti du lot positivement?
C'est un exercice qui est un peu compliqué, mais je te dirais que oui, on est capable de dégager certaines tendances. Et je pense que tu as bien fait de le souligner d'emblée, c'est qu'on se retrouve dans un exercice qui est extrêmement périlleux. Peux-tu imaginer, Paul-Raphaël, un débat où se retrouvent... D'abord, il y a tellement de candidats qu'il faut organiser deux débats, et dans chacun des deux débats, il y a 10 candidats qui y sont présents. Ça peut rapidement devenir cacophonique. C'est pas l'exercice idéal, mais on sent au moins qu'il y a deux ou trois candidats qui ont réussi à se démarquer. Dans le premier débat, qui s'est tenu mercredi soir, celle qui s'est démarquée, c'est Elizabeth Warren. C'est une politicienne progressiste des États-Unis et elle est arrivée solide, bien préparée, disant qu'elle avait un plan. C'est elle qui a marqué des points. Mais je te dirais que le débat le plus intéressant, celui qui était d'ailleurs le plus attendu, c'est le deuxième, jeudi soir. C'est le débat qui, entre autres, mettait en scène Joe Biden et Bernie Sanders, qui sont les deux meneurs, dans un certain sens, de la course à la direction pour la candidature pour l'élection présidentielle chez les démocrates. Et là, on a vu quelques étincelles. Et il y a quelques candidats qui ont réussi à se démarquer, notamment une sénatrice de la Californie qui s'appelle Kamala Harris. C'est une femme, c'est une afro-américaine, et elle a porté quelques accusations et quelques piques assez bien senties contre Joe Biden, qui est l'ancien vice-président de Barack Obama et qui est l'actuel favori. Bref, ça a donné lieu à des débats et des échanges intéressants. Mais il fallait pas s'attendre à des miracles d'un exercice comme celui-là. Ouais. Parce que dans le fond, quand tu as 10 candidats, puis en plus deux débats, c'était uniquement une façon pour certains candidats de se faire connaître, parce qu'il y en a certains là-dedans qui sont d'illustres inconnus aux États-Unis. Puis des fois, c'est l'occasion d'envoyer un petit pic, une citation, puis une déclaration au choc qui va faire les médias. Ouais. Et je pense que c'est guère à ça de plus qu'on pouvait s'attendre de ces deux débats.
Comme la fameuse citation de Kamala Harris, pendant une espèce de débat très cacophonique, qui a dit... Là, je pense que les Américains veulent pas d'une guerre de bouffe. Ils veulent qu'on mette de la nourriture sur la table. Ça a fait la mort. Ça, c'est le genre de ligne qui est écrite, qui frappe fort, puis qui fait en sorte que tu te retrouves dans les médias le lendemain.
C'est tellement intéressant ce que tu dis là, Paul-Raphaël. C'est que quelquefois, les animateurs du débat posaient des questions aux candidats, les amenaient à se prononcer sur tel ou tel thème, mais tu sentais très, très bien qu'il y a certains candidats qui se foutaient royalement des questions qui leur étaient posées. Eux autres, il y avait des lignes à envoyer, il y avait des petits speeches qu'ils avaient préparés, il y avait des choses à dire, et ils le faisaient sans même s'intéresser aux questions qui leur étaient posées.
C'était juste des monologues, finalement. La personne qui avait le meilleur script.
Ouais. C'est exactement. Et dans un certain sens, là, c'est l'art suprême de la vulgarisation. Parce qu'il fallait, en l'espace de petites interventions, des fois de 30 secondes, réussir à résumer l'esprit de sa pensée. C'était pas nécessairement quelque chose d'évident. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de rédacteurs de discours qui ont dû travailler fort pour préparer des petites lignes punchées qui permettaient d'aller au point puis d'envoyer des pics à l'adversaire.
Je le sais que ça risque de changer, les élections, c'est dans longtemps. Il peut encore y avoir un candidat qui débarque un peu de nulle part et puis qui rallie les troupes. Mais à l'heure actuelle, prof Arsenault, votre vieux deux piastres en papier, vous le metteriez sur quel candidat?
Mon vieux deux piastres en papier me dit que Joe Biden actuellement est probablement le favori. L'affaire de Joe Biden, et on l'a vu lors du débat de jeudi soir, l'affaire de Joe Biden, c'est qu'on a l'impression que ce gars-là surfe un peu sur son passé. Un passé pour lequel, d'ailleurs, il y a beaucoup de squelettes dans le placard, je vous le dis en passant. Mmh. Et plus la campagne va aller, plus on se rend compte que ça va devenir la cible vers laquelle se tournent toutes les accusations, toutes les attaques. Et si effectivement Joe Biden reste probablement le favori. Bernie Sanders reste dans le décor, quoi qu'il ait été plus ou moins facile lors du débat de jeudi soir, mais il y a d'autres candidats qui poussent. Je vous parlais de Kamala Harris tout à l'heure, je vous parlais d'Elizabeth Warren. On sent qu'il y a d'autres candidats là qui sont en train de... Et il peut tellement se passer de choses. Pouvez-vous imaginer, l'élection est juste en novembre 2020, ouais, dans un an et demi. Alors, il peut se passer énormément de choses, mais... Je suis en train de me demander si Joe Biden, qui partait dans le fond avec une certaine longueur d'avance compte tenu de sa notoriété, risque pas de trouver le temps long d'ici l'automne prochain. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances de voir sa campagne déraper que d'autres candidats, disons ça comme ça.
Est-ce que d'ailleurs, ça va pas prendre justement quelqu'un, peut-être comme Kamala Harris ou comme un candidat à l'externe qui va arriver, on sait pas quand, mais est-ce que ça prendrait pas justement un candidat comme ça pour espérer pouvoir battre Donald Trump? Parce que, en tant que tel, c'est un peu l'écœur en titre de l'establishment au sein du Parti démocrate qui a fait élire Donald Trump.
Et c'est un excellent point que tu soulèves, Paul-Raphaël. Puis, dans le fond, en fait, il y a deux choses dans ta question. Première des choses, ça va prendre quelqu'un qui va montrer qu'il est capable de tenir tête à Donald Trump. Parce qu'on se cachera pas, tout ce que veulent les démocrates en 2020, c'est chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. Un point, c'est tout. Or, il y en a certains qui ont réussi à marquer des points. Deuxième des choses, on se rend compte qu'au Parti démocrate, et la tendance, on la voyait déjà se dessiner depuis un petit bout de temps, depuis l'élection de 2016, mais là, ça devient flagrant, le Parti démocrate est un parti de plus en plus divisé. Et je te dirais de plus en plus à gauche. Il y a des candidats ouvertement progressistes, certains qui s'affichent maintenant carrément ouvertement comme étant socialistes et qui sont nombreux et qui rivalisent de propositions audacieuses. Moi, j'aurais jamais cru, Paul-Raphaël, entendre parler de santé gratuite aux États-Unis, d'éducation gratuite, de hausser les impôts des plus riches et de parler d'environnement aux États-Unis. C'est le discours qu'on entend de plus en plus maintenant du côté du Parti démocrate et on sent que il y a certains candidats extrêmement progressistes, alors qui sont plus très à gauche et qui poussent ces idées-là, alors qu'il y en a d'autres plus centristes. Joe Biden peut être considéré comme étant un peu plus centriste et qui, lui, probablement répugne à aller jouer dans les terrains de la gauche. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut aller chercher, c'est la middle class, c'est l'électorat centriste, c'est les électeurs qui, dans certains États américains du Midwest, ont voté pour Donald Trump lors de l'élection 2016, mais qui espère ramener dans son giron. Bref, il y a toute une dynamique qui est en cours actuellement au sein du Parti démocrate. L'impression, autant les républicains sont passés à droite au cours des dernières années, autant les démocrates, là, on sent qu'ils penchent vers la gauche. Désormais, il y a un choix clair pour les Américains. Pendant très longtemps, on a dit, oh, Parti démocrate, Parti républicain aux États-Unis, ça a même maudite affaire. Non, c'est plus vrai maintenant, parce qu'il y a deux propositions très différentes, très distinctes qui sont maintenant sur la table.
Avant de vous laisser aller, professeur Snow, je veux qu'on parle un peu du G20, hein, du regroupement des grands vins qui se tient à Osaka, au Japon, parce que ça va quand même assez mal là, pour Justin Trudeau. Je m'explique. Il se retrouve pris dans un conflit entre Donald Trump et Xi Jinping, les deux dirigeants des plus grandes puissances mondiales. Qu'est-ce que Justin Trudeau peut réellement faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir au sommet du G20 en discutant avec les différentes parties ou il est un peu foutu, peu importe ce qu'il décide de faire?
En fait, ce que Justin Trudeau espère par-dessus tout, c'est que les Américains et les Chinois réussissent à enterrer la hache de guerre commerciale et technologique, notamment autour de Huawei. Parce que dans un certain sens, et je pense que tu l'as très bien résumé d'entrée de jeu, le Canada se trouve actuellement pris entre l'arbre et l'écorce. Les Canadiens sont, dans un certain sens, les victimes collatérales de cette espèce d'épreuve de force qui oppose, d'un côté, les États-Unis de Donald Trump, de l'autre, la Chine de Xi Jinping, autour d'enjeux commerciaux, mais d'enjeux technologiques, notamment liés à Huawei. Et dans ce genre d'exercice-là, moi, les sommets du G20 puis du G7 puis tout ce genre de sommets-là, je doute un petit peu de l'utilité de ces sommets-là pour dégager des grandes forces, dégager des grandes tendances, conclure des grands accords. Mais l'intérêt, à mon sens, de ces grandes réunions internationales, c'est de permettre aux dirigeants de se rencontrer, de se côtoyer. Et on en a eu un excellent exemple. Je sais pas si tu as vu, Paul-Raphaël, les images du déjeuner de travail qui réunissait les dirigeants du G20 vendredi. On y voyait Justin Trudeau et Xi Jinping, le dirigeant chinois, assis côte à côte, parce que compte tenu de l'ordre alphabétique, Chine et Canada étaient comme côte à côte.
Quel bel
adon. Les deux ne se sont pas parlé, ne se sont pas regardés, se sont ignorés. Et là, tu dis, oh boy, ça va mal dans la cabane. Sauf que des images nous sont arrivées un petit peu plus tard où on voyait Justin Trudeau et Xi Jinping dans un corridor avec leurs interprètes en train de discuter. Et à mon sens, c'est ça l'intérêt de ces réunions internationales-là, c'est de permettre aux dirigeants en coulisses, derrière des portes closes, pas devant les caméras, là, mais derrière les portes closes, d'essayer d'arrondir les coins, de trouver des terrains d'entente et tout ça. Et Justin Trudeau, en tout cas, qu'est-ce qu'ils se sont dit, lui et M. Xi, pendant cette petite rencontre de corridor? On le sait pas trop, mais une chose est sûre, au Canada, Justin Trudeau est le premier, il espère plus que tout autre que les Chinois et les Américains vont enterrer la hache de guerre, puis que ça va permettre, dans un certain sens, de relâcher la pression sur le Canada.
Parce que la réalité, c'est que quand t'es premier ministre d'une population de 35 millions de personnes, tu te retrouves pris entre la Chine et les États-Unis. On s'entend que sur le plan commercial, sur le plan économique, t'as pas vraiment un grand pouvoir de sanctionner les deux autres pays, là.
Non, non, et pour reprendre une analogie que tout le monde connaît, le Canada a l'air d'une petite souris pognée entre deux éléphants.
Ouais.
Alors, c'est sûr que ton rapport de force est moins important. D'ailleurs, je te fais remarquer que le Canada, la semaine dernière, comptait sur Donald Trump. Justin Trudeau s'est rendu à Washington. Il a rencontré le président américain en espérant que le président américain, dans un certain sens, ferait pression sur la Chine pour notamment exiger la libération des Canadiens détenus en Chine. On espérait, dans un certain sens, M. Trump soit le porte-parole ou le porte-voix du Canada, sachant que le Canada ne pouvait pas directement s'adresser à Xi Jinping. Je crois comprendre que M. Trump n'a pas nécessairement abordé la question lors de sa rencontre avec M. Xi, mais en tout cas, on verra pour la suite des choses.
Merci, Prof. Arsenault.
C'est toujours un plaisir.
Okay, bonne journée.
À la prochaine.
Éric Arsenault est prof d'actualité internationale.